C'est bon de pouvoir s'appuyer sur le Seigneur, n'est-ce pas? Et beaucoup d'entre nous, nous avons fait cette découverte et nous voudrions que cet après-midi, vous puissiez la faire vous également. Voilà, je vous propose de lire un texte de la parole de Dieu parce que la Bible, c'est tout ce que nous avons à vous offrir, mais c'est le meilleur. Parce que la Bible, justement, c'est la parole de Dieu. On va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 4. Une de ces paraboles, de ces petites histoires savoureuses, que le Seigneur Jésus avait l'art de raconter. Luc, chapitre 8, verset 4, il est dit ceci. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Excusez-moi. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Voilà. Alors, Israël, le peuple d'Israël, le peuple juif, à l'époque de Jésus, était pour l'essentiel un peuple d'agriculteurs. Et la vie de ces gens-là était rythmée, année après année, par les semailles et la moisson. Et Jésus, n'est-ce pas, sachant dans quel contexte, dans quel cadre de vie il évoluait, eh bien, racontait souvent des histoires qui étaient en relation avec l'agriculture, pour illustrer, pour imager, pour représenter les vérités spirituelles qu'il était chargé d'annoncer. Et ici, dans le texte que nous avons lu, il est question d'un semeur. Et ce semeur, bien sûr, eh bien, il jette sa semence en terre. Et cette semence produit plus ou moins de fruits en fonction des différentes conditions rencontrées. Alors, ça nous apprend quelque chose, déjà. C'est pour que la récolte soit abondante, il faut trois conditions. D'abord, il faut un semeur qui fasse son travail de manière consciencieuse. Ensuite, il faut une semence de qualité. Et puis, enfin, pour que la récolte soit abondante, il faut un terrain fertile, un terrain fertile. Alors le semeur, qui est-ce? Eh bien, le semeur, quand Jésus était en chair et en os sur la terre, c'était lui le semeur. Puisque la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, etc., etc. Aujourd'hui, Jésus est retourné auprès de son Père dans le ciel. Il a envoyé son esprit sur ses disciples, ses serviteurs, et il leur a ordonné d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ce que nous faisons cet après-midi, respectant l'ordre de Jésus, nous vous annonçons, nous vous prêchons la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et puis la semence, eh bien la semence, ainsi que le Seigneur d'ailleurs le précise dans le texte, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la bonne nouvelle. La semence, c'est l'évangile. Et qu'est-ce que nous dit l'évangile ? L'évangile nous dit que nous sommes des pécheurs, premièrement. Et que si nous en restons là, dans cet état de péché, dans cette condition de pécheur, nous serons irrémédiablement perdus. Et notre sort, qui serait un sort tragique, ce serait l'enfer et ses tourments éternels. Mais l'évangile, puisque c'est une bonne nouvelle, nous apprend que Dieu nous aime. Alléluia. Et que nous aimons, il a envoyé son fils, Jésus, lequel Jésus est mort sur la croix pour expier nos péchés. Il a pris à son compte nos péchés, alors que lui-même n'en avait commis aucun, et il a subi le châtiment que nous méritions. Voilà ce qu'est l'évangile. Jésus est mort, bien plus, nous dit la Bible, il est ressuscité, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, que fait-il là-haut dans le ciel, auprès de son Père, où il est retourné? Eh bien, il prie. Il prie pour tous ceux qui ont mis en lui, en Jésus, leur confiance, et par son intercession, par son intermédiaire, par l'intercession, la prière de Jésus, nous pouvons obtenir de la part de Dieu le Père le pardon de nos péchés. Tout ça, vous voyez, très brièvement résumé, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Et plusieurs parmi nous, nous avons cru à cette bonne nouvelle. Et nous sommes tout heureux d'être sauvés, oui ou non? Mes frères et sœurs, nous sommes en possession d'une espérance qui remplit notre cœur. Alléluia! Ça ne veut pas dire que tout va toujours pour le mieux dans le meilleur du monde. Non, non. Nous avons nos problèmes, nos combats, nos luttes, nos épreuves, comme tout un chacun. Parfois, ils ont le courage, l'honnêteté de le reconnaître. Dans la vie de certains chrétiens, se produisent des drames. Mais par-delà, tous les événements, les circonstances fâcheuses que nous pouvons rencontrer dans la vie ordinaire, toujours au fond de notre cœur, demeure cette certitude, nous sommes en route vers le royaume des cieux. Nous avons reçu la grâce du Seigneur. Ça, c'est la semence. Ça, c'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile. Vous savez, toute semence produit la vie. C'est vrai, hein? Si vous voulez une vie végétale, qu'est-ce qu'il faut? Une semence végétale. Si vous voulez une vie animale, qu'est-ce qu'il faut? Une semence animale. Si vous voulez une vie humaine, il faut une semence humaine. C'est comme ça que ça marche. Et si vous voulez une vie divine, il faut aussi une semence divine. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que pour que la récolte soit abondante, il fallait un semeur et il fallait aussi une semence de qualité. Eh bien, la parole de Dieu, c'est une semence d'excellente qualité. Amen. Parce que quand elle est reçue favorablement dans le cœur d'un homme ou d'une femme, d'un jeune ou d'une personne âgée, d'un enfant ou d'un vieillard, cette semence produit la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Moi, je suis tout heureux d'être en possession de la vie éternelle. De savoir, comme dit la Bible, que mon nom est inscrit dans le livre de vie, non pas, et je pense que mes frères et sœurs sont au même point que moi, non pas parce que nous sommes des gens extraordinaires, formidables, triés sur le volet, exceptionnels, pétris de qualité, méritants, comme c'est pas possible de l'être. Non, parce que Dieu nous a fait grâce, parce que Dieu nous a fait miséricorde, et savons qu'un jour, eh bien, lorsque notre vie parviendra à son terme ici-bas, eh bien, le Seigneur nous recueillera dans son royaume. Amen. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Et en attendant, sur la terre des hommes, Jésus est avec nous. Et ça, c'est merveilleux. Elle a, dans un sens, déjà commencé la vie éternelle, parce que là, dans notre cœur, demeure la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Je ne peux pas me passer de la présence de Dieu. Rien n'égale la présence de Dieu. Toutes les jouissances terrestres, tous les plaisirs du monde, toutes les satisfactions que nous pouvons nous efforcer de connaître ici-bas, même les satisfactions légitimes, n'égalent pas la réalité de la présence de Dieu dans notre cœur. Soyez attentifs à ce message. Et vous aussi, chrétiens, parce que ça vous concerne, c'est merveilleux, disons-nous, d'être en possession de la vie éternelle. Alors, vous avez remarqué, n'est-ce pas, que dans cette histoire, il est question de quatre terrains, de quatre catégories de terrains. Et selon les différentes catégories de terrains, eh bien, la semence produit un effet différent. Eh oui, pour que la semence de la parole de Dieu produise un effet bénéfique, qu'elle produise en nous la vie éternelle, il faut qu'elle soit reçue dans des conditions favorables. Quatre catégories de terrain qui représentent quatre catégories d'auditeurs de la parole de Dieu. Et soyez attentifs parce que vous êtes forcément dans l'une ou l'autre de ces catégories. On peut pas en être autrement. Vous êtes obligatoirement dans l'une ou l'autre de ces quatre catégories. Alors, dit Jésus, il y a d'abord ceux qui entendent, oui, mais ils n'ont aucun intérêt pour les vérités enseignées par la parole de Dieu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ça leur passe, comme on dit, au-dessus de la tête. Ou si vous voulez, ils ont des oreilles à courant d'air. Ce sont ce que la Bible appelle des profanes. Qu'est-ce que c'est un profane? C'est pas forcément quelqu'un qui tend le poing contre le ciel. C'est même peut-être quelqu'un qui, à la limite, dira « Je respecte votre foi » et qui aura un langage très, très, très élogieux. Mais un profane, c'est quelqu'un, comme dit la Bible, qui ne pense qu'aux choses de la terre. La parole de Dieu dira même « Ils ont pour Dieu leur ventre ». Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence spirituelle, car il y a une intelligence cérébrale et il y a une intelligence spirituelle. Et parfois, des gens qui sont brillants sur le plan intellectuel n'y comprennent rien sur le plan spirituel. Ils ont l'intelligence obscurcie. Le diable a aveuglé leur esprit pour qu'il ne voit pas, dit l'Écriture, briller la splendeur de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est terrible d'avoir un tel état d'esprit. Parce que le sort de ces gens-là, malheur à vous si vous en faites partie, le sort de ces gens-là, qui n'ont aucun intérêt dans les vérités enseignées par la parole de Dieu, le sort de ces gens-là sera de connaître la perdition éternelle. Dans la Bible, il y a un homme qui fut célèbre pour, hélas, l'esprit profane qu'il a manifesté, il s'appelait Ésaü. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, qu'Ésaü était un profane. Et parce qu'il était un profane, il a méprisé la bénédiction que Dieu pourtant était désireux de lui accorder. Et le même texte auquel je me réfère nous dit que Ésaü, plus tard, il a regretté le mépris qu'il avait eu en son temps vis-à-vis de la bénédiction de Dieu. Mais son regret, son repentir ne put avoir aucun effet et il fut rejeté. Quel mot terrible, plus tard. Faut pas jouer avec plus tard. Le diable vous dira toujours, plus tard. Tu es jeune, plus tard, tu penseras à ces choses-là. Profite de la vie. Oh, puis, maintenant, tu es engagé dans l'existence, tu es peut-être père ou mère de famille, tu as des enfants. Alors, tu es fort occupé. Plus tard, tu penseras à ton âme. Et puis, on avance dans la vie encore un petit peu. Prépare ta retraite et plus tard, tu penseras à ton âme. Non, non, mes amis, c'est pas plus tard, c'est tout de suite. Parce qu'à force de dire plus tard, pour beaucoup, ça a été trop tard. Et ce fut le cas pour Ésaü. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, dit Jésus, il y a ceux qui entendent, mais ce sont, comment on peut dire ça, des gens superficiels. Ils n'ont pas de racines, des gens superficiels. Dans un premier temps, voyez-vous, dans un premier temps, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de l'évangile, ils vont manifester un grand enthousiasme. Ah, c'est formidable! C'est vraiment ce qu'il me fallait. Mais c'est un enthousiasme passager. Ils sont, comme on dit vulgairement, tout feu, tout flamme, mais c'est un feu de paille. Ça flambe haut, ça flambe fort, ça flambe vite, et puis ça s'éteint aussi très, très, très rapidement. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne sont pas fiables, voyez. Dès que survient une difficulté, ainsi que l'indique Jésus, ils abandonnent la partie. Ils renient leur engagement envers le Seigneur. Alors, la difficulté, ça peut être une épreuve. Ben oui. J'ai dit tout à l'heure que dans la vie d'un chrétien, il peut y avoir des difficultés, voire des drames, des épreuves, des combats, des luttes, c'est pas facile. La vie est une rude et difficile et périlleuse aventure. Il peut y avoir l'opposition de la part de la famille, de la part des amis. Alors, en but à l'opposition, ben, il y a des gens qui reviennent en arrière, se laissent impressionner par les détracteurs. Il y a des tentations. Ah, le péché peut nous amorcer si facilement et nous attirer dans ses filets pour nous faire chavirer du mauvais côté. Alors que ce soit l'épreuve, que ce soit l'opposition, que ce soit la tentation, eh bien, voyez-vous, ces gens qui sont superficiels se découragent. Ils ne tiennent pas la distance. Ils ne vont pas jusqu'au bout de leur engagement. Or, vous savez, la foi, ne l'oublions jamais, est faite de persévérance. C'est pour ça que Jésus a dit, et je crois qu'il l'a dit à plusieurs reprises, en tout cas on trouve cette parole dans plusieurs des évangiles, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Oui, c'est vrai qu'il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça c'est le départ, ça c'est l'engagement. Ça, c'est se lancer dans la course chrétienne. Mais pour atteindre le but, pour véritablement, eh bien, parvenir, comme nous le disions tout à l'heure, à la vie éternelle, il faut persévérer. Pour vous persuader que la foi et la persévérance sont en relation directe, laissez-moi vous lire ce texte de l'Épître aux Hébreux. Peut-être on peut l'afficher. Chapitre 10, au verset 35. Il est dit ceci, Hébreux chapitre 10, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Vous voyez ? Pas abandonner la partie. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération ou une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Jésus revient, hein? Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez ? Ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, la foi, ça marche de pair avec la persévérance. Des gens superficiels, on en a des exemples dans la Bible. Je voudrais évoquer encore une fois l'exemple de ces quelques personnages. L'évangile de Jean nous en parle au chapitre 6, qui se déclaraient disciples de Jésus. Mais un jour où Jésus a eu une prédication particulièrement rigoureuse, ces gens-là l'ont pris de haut, comme on dit. Parce que l'évangile, c'est pas de la pommade qu'on passe dans le dos des gens. L'évangile, c'est parfois rude. L'évangile, avant de nous guérir, nous blesse parfois, parce qu'il dénonce notre misère, notre péché. Mais c'est une blessure bénéfique. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime. L'Écriture dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Tout à l'heure, on a chanté que nous n'avions qu'un ami, que cet ami c'était Jésus. Et parfois, sa parole nous heurte. Mais afin de nous faire prendre conscience de certaines réalités. Donc ces gens qui faisaient profession d'être disciples de Jésus, à l'écoute de cette parole particulièrement rigoureuse de la prédication de Jésus, eh bien, l'ont abandonné. Et dit, ils n'allaient plus avec lui. Il y a des gens comme ça, ils sont décevants. Vous savez, ils nous déçoivent, nous. Mais le Seigneur, il n'est pas déçu parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Hein? À propos de difficultés, jamais Jésus ne nous a caché les choses. Lorsque nous lisons les évangiles, nous apercevons que le Seigneur est d'une franchise absolue. Voilà, d'une franchise absolue. Et il a dit, par exemple, s'adressant à des disciples, « Vous aurez des tribulations, des épreuves. Vous en aurez !» Mais il a ajouté, « Alléluia !» Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous pouvons avoir l'assurance que dans nos combats, nos épreuves, nos luttes, Jésus nous soutient, il nous assiste, il nous fortifie, il nous secourt, il nous relève quand nous sommes sur le point de nous écrouler et au bout du compte, il nous garantit la victoire. Et nous qui cheminons avec le Seigneur depuis un certain temps, depuis plusieurs dizaines d'années pour certains, nous pouvons dire, c'est vrai, amen. Si nous sommes encore debout, c'est par la grâce de Dieu. Ça n'est pas parce que nous avons eu une force de caractère exceptionnelle. Ça n'est pas parce que nous avons eu une énergie remarquable. Mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce toutes les fois où nous nous sommes trouvés en difficulté. Enfin, il y a aussi ceux qui, enfin, tout au moins un troisième cas, il y a ceux qui entendent, mais qui ne mettent pas les priorités dans le bon ordre. Voyez, hein? Jésus dira, voilà, il y a des gens, eh bien, ils entendent la parole, et puis ils la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ils entendent, je le répète, mais ils ne mettent pas les priorités dans le bon ordre. Il faut que chaque chose soit à sa place et que chaque place ait sa chose, mais dans le bon sens, voyez. Alors, les affaires de la vie, c'est légitime. Les plaisirs, il y a des plaisirs légitimes aussi. Les besoins matériels, tout ça a sa place dans notre existence, c'est normal. Mais... nous devons considérer que l'essentiel n'est pas là. Et qu'il nous faut prendre en compte d'abord les réalités éternelles et ne pas privilégier les réalités temporelles. C'est ce que l'apôtre Paul nous dira dans l'une de ses épîtres, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, où je vous lis maintenant. Il nous dit ceci. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous savez que tout ce qui est visible, tout notre monde matériel, tout cet univers dans lequel nous nous trouvons, tout ce que nous pouvons voir, entendre, toucher, sentir, tout cela, disparaîtra. Et seules demeureront les réalités éternelles. Et ce sont elles qu'il faut privilégier. Quand je parle de ceux qui ne mettent pas les priorités dans leur bon ordre, il y a cet exemple classique que la Bible donne. Ce garçon, ce jeune homme, dit le jeune homme riche, on ne sait pas son nom, on ne sait pas s'il s'appelle Paul, Pierre, Jacques ou Jean, peu importe. Et apparemment, il était plein de bonnes intentions, puisqu'il voulait, lui, avoir la vie éternelle. Et quand le Seigneur lui a précisé les conditions, ce n'était pas facile à entendre. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, fais une distribution générale, tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Et ce garçon est devenu tout triste. Pourquoi ? Parce que la Bible dit qu'il avait de grands biens, il était riche. Et pour lui, certes, les réalités spirituelles ne le désintéressaient pas totalement, mais ce qui comptait d'abord, c'était les possessions matérielles. Et la parole de Jésus a mis, comme on dit, le doigt sur la plaie. Et il a tourné les talons, il est parti. Vous savez, d'une certaine manière, on est un peu tous riches de quelque chose. On peut être riche de sa santé. On peut être riche de sa jeunesse. On peut être riche de sa liberté. Et on peut dire, mais si je me convertis, je ne pourrai plus faire ceci. Je serai plus libre de faire cela. Je ne pourrai pas aller là-bas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Jésus ne nous enlève rien de bon. Il nous délivre simplement de ce qui est mauvais. C'est un peu pareil, ça. Alors, voyez, il faut mettre les priorités dans le bon ordre. Chercher d'abord, chercher premièrement, nous dit l'Écriture, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Et c'est vrai que quand on met Dieu à la première place dans notre vie, il s'occupe du reste. Il s'occupe du reste. Enfin, il y a ceux qui entendent, dit Jésus, la parole de Dieu, l'évangile, avec un cœur honnête et bon. Qu'est-ce que c'est que l'honnêteté ? On pourrait dire l'honnêteté, c'est s'abstenir de chaparder, de voler. Oui, mais c'est plus que ça. L'honnêteté, c'est apprécier la vérité. Est-ce que vous aimez la vérité ? Répondez pas si vite. Quand elle concerne les autres, la vérité, ça nous arrange. Mais quand elle nous concerne, nous. Et la Bible dit qu'il y a des gens, ils seront perdus parce qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas manifesté l'amour de la vérité pour être sauvés. Et au contraire, ceux qui seront sauvés, eh bien, c'est ceux qui auront eu un cœur honnête et qui auront reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Tenez, tout à l'heure, je vous parlais de ces disciples qui avaient abandonné Jésus parce qu'il avait eu un certain jour une prédication un petit peu rude. Et quand ces gens-là sont partis, chose étonnante, Jésus s'est tourné vers les 12 apôtres. Et il leur a dit ceci, moi j'oserais jamais dire un truc pareil. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Et Pierre eu cette répartie remarquable. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez ? Ça, c'était un homme qui aimait la vérité. Il n'était pas parfait, Pierre. Et il avait encore bien des défauts, bien des traits de caractère qui devaient être corrigés. Et le Seigneur va l'amener à se laisser corriger peu à peu. Mais il avait l'amour de la vérité. Il était décidé à suivre Jésus jusqu'au bout parce qu'il avait compris qu'en lui et avec lui et par lui, il recevrait à coup sûr la vie éternelle. Alors t'abandonner, Seigneur, te laisser tomber, jamais de la vie. Moi, je veux m'attacher à toi de tout mon cœur. Un cœur honnête et bon. Avoir un cœur bon, c'est avoir de bonnes dispositions. C'est avoir du bon sens. Et lorsque le Seigneur peut rencontrer en nous des cœurs honnêtes et bons, eh bien notre cœur est comme un terrain fertile. On se laisse interpeller par la parole de Dieu. Voyez ? Les gens qui manifestent un cœur honnête et bon, ce sont ceux qui se repentent. Et qui croit, voilà, qui s'humilie devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais la réalité de mes fautes, de mes péchés, et je t'en demande pardon. Seigneur, je comprends que pour m'arracher à la mort, au jugement de Dieu, à la condamnation, à l'enfer, tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Oh, je choisis de placer ma confiance en toi. Ainsi, ces gens-là, qui ont un cœur honnête et bon, ils reçoivent la vie éternelle et ils accèdent au salut. Je vous souhaite d'être de ceux-là, de faire partie de cette quatrième catégorie. Voyez, j'ai dit tout à l'heure, et je vais conclure maintenant, que vous faites partie obligatoirement de l'une ou de l'autre de ces quatre catégories. Qui êtes-vous? Et surtout, qui voulez-vous être? Dans quelle catégorie vous voulez vous placer? C'est à vous de décider. Puissiez-vous manifester, eh bien, un cœur honnête et bon, et recevoir ainsi la miséricorde et la grâce de Dieu. Vous savez, il ne faut pas être dans l'illusion. Il n'y a rien de plus terrible, de plus dangereux que l'illusion. L'illusion, c'est quoi? C'est croire ce qui n'est pas. Et il y a des gens qui sont dans l'illusion parce qu'ils pensent que du moment qu'ils entendent l'évangile, tout va bien. Mais non, mes amis, dans le texte qui nous occupe cet après-midi, vous avez remarqué, les quatre catégories d'auditeurs ont tous entendu la parole. Relisez le texte. Ils ont tous entendu, mais chacun d'entre eux en a tiré une conséquence différente. Les uns ont évacué cette parole, si je puis dire, les autres en ont tenu compte et ils ont été bénis. Alors ne vous contentez pas d'entendre la parole, mais passez aux actes. Prenez votre décision, choisissez Jésus pour sauveur. Seigneur, je veux faire partie de ceux qui ont un cœur honnête et bon. Hein, que cette parole descende au fond de mon cœur, que là, eh bien, la recevant favorablement, elle produise son fruit excellent et que je sois sauvé. Que tu m'accompagnes déjà sur la terre et qu'un jour pour moi, eh bien, les portes du royaume des cieux s'ouvrent toutes grandes pour m'accueillir auprès de toi et pour y passer l'éternité. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. On prie, s'il vous plaît. Notre Dieu.